Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Attends, du coup, là, on est déjà dans la phase 5 de Marvel ?
Oui, oui, depuis Ant-Man 3.
Non, mais j'y comprends plus rien à leur planning, j'ai raté trop de trucs !
Et bah justement, cet épisode de la Réu est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est un service de cybersécurité qui vous assure un accès serein sur Internet, notamment en chiffrant votre activité en ligne pour protéger votre anonymat et vos données personnelles.
Ok, mais je vois pas trop le rapport.
J'y viens. NordVPN, ça permet aussi de changer d'emplacement virtuel et donc de se débarrasser des géorestrictions. Si tu accèdes au catalogue américain de Disney+, par exemple, tu auras accès à tous les films Marvel, parfois indisponibles ailleurs.
Ah, donc ça veut dire que je peux rattraper Ant-Man 3 ?
Ouais, je suis pas sûr que tu devrais pour autant. En tout cas, ces changements d'emplacement permettent aussi de faire des économies ailleurs, notamment pour certains produits ou même pour des voyages où les prix varient selon les pays. Avec le code promo LAREU ou le lien en description de ce podcast, vous avez la possibilité d'obtenir une offre exclusive. Le logiciel est synchronisable sur jusqu'à 6 appareils en simultané et il y a une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et maintenant, retournons parler de Marvel.
Salut Alex.
Salut Déborah.
Salut Antoine.
Salut Déborah.
Nous voilà de retour à tête un peu plus reposée pour commencer la seconde partie de notre EU consacrée à l'état de santé, disons fébrile, de Marvel. On a fini la dernière fois en parlant des problèmes des séries Disney+, mais on est encore loin, très loin, d'avoir fait le tour des problématiques du studio et de la marque, notamment d'un point de vue business et production. Bon, déjà, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur la production compliquée de The Marvels.
Et oui, parce que là, celui-là, c'est quand même un cas très très particulier, puisque bah, pour rappel, hein, quand même, quand on est sorti du Covid, donc au moment où on n'avait pas eu de film depuis Spider-Man Far From Home d'ailleurs, Marvel a fait un grand teaser qui était assez spectaculaire, avec d'ailleurs la voix de Stan Lee qui était déjà mort, là, vraiment en version nécromancie, où ils avaient teasé tous les films qui arrivaient, et en montrant d'ailleurs des images exclusives pour Shang-Chi et Les Éternels. Et il faut quand même se souvenir qu'ils avaient tout teasé jusqu'à Gardien de la Galaxie 3, qui était à ce moment-là censé conclure la phase 4 MDR. Donc c'est Ant-Man 3 qui a commencé la phase 5, pour rappel. Et là-dedans, The Marvels était calé à novembre 2022. Sauf qu'il est sorti quand même un an plus tard, après du coup deux décalages, puisque c'est le seul film Marvel à ma connaissance qui a connu un tel changement. D'une part, bouger à l'été 2023 pour ensuite rebouger à novembre 2023, donc il a été décalé d'un an au total. Pourquoi ? Et bah, pour plein de raisons assez plus ou moins mystérieuses. On sait qu'il y a eu des premières projo tests qui ont été catastrophiques visiblement pour Marvel, ce qui ne leur arrive pas si souvent et qui a fait que le film a eu des reshoots massif. On ne sait pas trop quand d'ailleurs, mais il y en a eu.
Ça a l'air d'être la fin un petit peu vu la tête du film. Je vois bien les reshoots de fin.
On ne sait pas trop Kang surtout.
On ne sait pas trop Kang. Bien joué. Mais en tout cas, oui, on sait que c'est plutôt le troisième acte a priori qui a été retravaillé et charcuté aussi. Et pas mal d'éléments de sous-intrigue ont été visiblement enlevés, ce qui fait d'ailleurs que le film dure cette fameuse durée d'une heure 45 qu'on a trouvé plutôt plaisante pour le coup. Mais en tout cas, voilà, ça a fait aussi que The Marvels partait avec ce côté film un peu handicapé avant même d'arriver. d'arriver, et je pense que ça a clairement joué sur sa réception assez catastrophique, notamment outre-Atlantique, qui a fait surtout que le box-office s'en est fortement ressenti.
Parce que j'avais écrit dessus, mais évidemment je m'en souviens pas entre tous les trucs qui ont été décalés, mais on est d'accord qu'avant l'ordre des films c'était pas exactement le même. The Marvels a été décalé mais pas les autres films, genre il y a eu inversion de certains films.
La plupart des films ont bougé d'un slot, enfin ont bougé au slot suivant, à part Ant-Man 3 d'ailleurs qui est le seul qui a pas bougé, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi moche d'ailleurs, le changement principal qui a eu lieu avant ça c'est le changement de Doctor Strange 2 qui aurait dû sortir avant je ne sais plus quel autre film d'ailleurs,
avant Spider-Man No Way Home.
Avant Spider-Man No Way Home, c'est ça exactement, qui devait sortir avant Spider-Man No Way Home, qui du coup a provoqué aussi un décalage qui a fait que quand WandaVision est arrivé, Doctor Strange est sorti bien après la sortie de la série WandaVision, et dans le même domaine The Marvels devait sortir peu de temps après Miss Marvel. En fait, le personnage devait être introduit pour que tout de suite après t'enchaînes avec le film qui lui correspondait. Ce qui n'est pas le cas, il prouve bien le problème de correspondance entre les séries Marvel et les films qui sortent en salle. Voilà, donc ça c'est un des soucis. Et l'autre problème du coup qui va avec ça, et on y reviendra peut-être un peu plus en détail, c'est que The Marvels est un flop monstrueux au vu de son box-office très très compliqué, puisque c'est à l'heure actuelle le pire démarrage ever d'un film Marvel à 46 millions sur le sol américain, là où même les pires films des débuts comme l'incroyable Hulk faisaient 55 à leur début. Et c'est d'autant plus un problème que c'est l'un des pires box-office ever de Marvel, qui a même pas atteint les 200 millions à l'heure où on fait cette réu, alors que le film aurait coûté plus de 250 millions à produire, notamment à cause de ses reshoots en pagaille, ce qui est quand même très très conséquent et qui fait que le film devrait être une perte sèche d'argent pour Marvel.
Oui, parce que rappelons quand même que le budget estimé de The Marvels, donc c'est 270 millions.
Ah oui, même au-dessus de ça.
Voilà. Alors que le premier Captain Marvel, bon ok, il y avait un seul personnage et il n'y avait pas des effets spéciaux dans tous les sens, mais c'était 150 millions. Et on voit le même budget qui grimpe par exemple avec Ant-Man 3, qui a 200 millions. Rendez compte.
Ouais, mais il y a tout le monde subatomique à faire.
Ah oui, sur des fonds verts.
Non, c'était pas que des fonds verts.
Et je pense
qu'ils
craft.
Oui, et le
ils y sont vraiment allés. Donc ça coûte de l'argent.
Non, mais vraiment, je me remets pas de cette scène là. Ils sont tous les trois sur l'espèce de Raymanta là, genre vraiment
c'est
l'incrustation est terrible au niveau des pieds surtout. Ouais, ouais. Vraiment au-delà de MODOK, il y a ça aussi. Oh, et cette espèce de dîner là, tu sais, avec
Bill Murray là qui débarque.
Avec
là.
Bill Murray, avec cette espèce de chant contre chant infernal là de montage et où clairement, t'as pas l'impression qu'ils sont dans la même pièce. Et les fonds verts sont immondes. Enfin, non, vraiment, c'est...
Ce qui est un truc qu'on avait relevé d'ailleurs à l'époque, hein, mais en particulier avec Thor 4 et Ant-Man 3, qui sont donc réalisés et par Taika Waititi et Peyton Reed, qui avaient bossé sur The Mandalorian et qui avaient fait que Mandalorian était la série qui avait introduit le fameux Stagecraft, donc ces fameux studios d'écran LED de d'ILM, qui a été quand même assez révolutionnaire, hein, même si certains l'ont très mal utilisé depuis, mais c'était quand même l'opportunité de recréer, de changer le fond, la façon d'utiliser le fond vert et de créer des perspectives différentes avec des décors virtuels où t'as quand même des éléments de décor en dur pour les acteurs, ce qui est vachement bien pour se projeter dans le décor, sauf que quand tu l'utilises mal t'as l'impression d'avoir des aplats de fond d'écran Windows derrière toi, et dans Ant-Man 3 et Thor 4, mais c'est l'évidence, enfin, y a aucune perspective, y a aucun traitement de l'image, c'est tellement moche, les acteurs semblent plaqués là-dessus. Et ça rend limite pire que du fond vert, quoi. Et c'est pour des films qui ont coûté aussi cher, parce que Thor 4 a aussi coûté 250 patates. Je trouve ça assez hallucinant que les deux films soient aussi moches.
Ant-Man 3 a coûté 200 millions, alors que le 2 c'était 165 millions, et on n'est pas si loin que ça. Après, pour le coup, Ant-Man 3, je vais pas le défendre, hein, attention. Mais.
Attention.
Il y a quand même ce truc où on n'arrête pas de le dire, genre on en a marre et on est lassé de voir des bagarres dans des parkings et sur des ponts, c'est tout gris, c'est tout moche, c'est que des grands immeubles et tout ça. C'est vrai que là, au moins, je reconnaissais l'effort de passer la quasi-totalité de films dans le royaume quantique, donc d'avoir quand même quelque chose visuellement, certes moche, mais différent.
Pour avoir une ville grise à la fin de SF, donc il y a un petit changement quand même.
Oui.
Ouais, pour se battre dans la ville grise du royaume quantique, sur le parking gris du royaume quantique et dans le sous-sol gris du parking quantique. Donc l'avantage c'est qu'on est dans le royaume quantique, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs,
on garde les fondamentaux quand même.
Voilà, c'est ça. Il faut quand même les bases.
Moi, c'est un des trucs que j'avais grave aimé dans Shang-Chi, même si je sais que ça fait pas l'unanimité, mais à la fin, là, quand on est dans l'espèce de village Talo, truc complètement surréaliste, ultra bucolique, avec des créatures en CGI pas possible, pour le coup, je me disais, bah, je préfère encore voir ça, être vraiment plongé dans un univers de la fantaisie totale, quitte à ce que ce soit, oui, très artificiel, voire un peu cheap à l'écran, alors que c'est absolument pas censé faire cheap avec tout l'argent qu'il y a derrière. Mais au moins, voilà, c'est quelque chose, je suis dans un univers, je suis pas dans un parking.
Non, mais cette fois-ci, c'était le ciel qui était gris dans Shang-Chi, donc ça fait une petite diff quand même, qui est non négligeable. Et l'eau était un peu grise aussi. Quand même.
Oui, à la base, le film s'appelait Shang-Gri, d'ailleurs.
Ouais, parce qu'après avoir été dans un immeuble désaffecté dans le premier acte, c'est bien de changer un petit peu en cours de route.
Alors franchement, je défends. Ok, d'accord, je dis que j'aime pas les scènes parking, mais dans Shang-Chi, il y a et l'immeuble et le bus. Donc bah, quand même. Deux trucs ultra clichés. Après, j'avoue, franchement, il a calé des moves d'arts martiaux à partir de là. Je pardonne tellement tout.
Je suis d'accord pour dire que Shang-Chi a parmi les meilleures scènes d'action récentes de Marvel. Donc rien que pour ça, je lui pardonne. Mais je ne lui pardonne pas le fait que quand le générique de fin a débuté et que j'ai vu Bill Pope, donc chez Fop quand même, de Spider-Man 2 sur à l'écran, j'ai fait mais bro, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé à faire la photo de ce machin alors que tu es l'un des chefs-op les plus légendaires des années 2000? C'est hallucinant.
Il a fait Mr. Turner aussi, qui était un magnifique film visuellement.
Oui,
sur un peintre.
Oui, c'est vrai.
Bon, vu qu'on parle des effets spéciaux moches, autant rester sur ce sujet-là. Antoine, pourquoi les VFX de Marvel sont de plus en plus moches? Explique-nous.
Bah alors ça, c'est tout un... Par où commencer? Non, mais en fait, la problématique des VFX chez Marvel, on en a déjà beaucoup parlé ici, c'est parce que concrètement, Marvel, dans sa manière de tâtonner, hein, autant créativement que d'un point de vue de sa production, fait que ses pré-productions sont très précipitées. Et donc forcément, dans un cas comme celui-là, bah, la méthode est très simple, c'est de dire on rattrape tout en post-prod. Sauf que de tout rattraper en post-prod, ça pose plein de problèmes. Quand t'as des réals comme, à tout hasard d'ailleurs, Destin Daniel Cretton, hein, le réal de Shang-Chi qui avait rien fait de cette ampleur-là avant, ou même le réal John Watts sur les Spider-Man avec Tom Holland, qui sont des mecs qui viennent du cinéma indé, qui n'ont jamais appris à bosser avec des effets visuels. Donc comment tu bosses avec des effets visuels? Bah, quand tu sais pas, tu fais confiance à des chefs de poste qui des fois savent eux-mêmes pas trop comment tout ça fonctionne en cohésion, et donc bah, tu fais avec. Et en fait, non seulement le problème des effets visuels chez Marvel, c'est qu'ils sont traités très rapidement par des équipes sur les rotules, et surtout bah, ces gens-là disent de plus en plus qu'ils doivent corriger en fait des problèmes de tournage, typiquement un exemple à la con sur Spider-Man No Way Home où comme tu fais les bras de Dr Octopus en CG et non plus avec des marionnettes comme c'était le cas chez Sam Raimi, et bah pourquoi mettre Dr Octopus sur câble quand c'est les tentacules qui le font marcher? Et bah le problème c'est que quand tu fais ça, faut que les pieds qui pendent dans les airs de Octopus, tu les refasses en CGI derrière parce que personne n'a pensé à le faire sur le tournage, tu vois, ce genre de conneries comme ça. Et qu'en fait Marvel se traîne depuis des années. On a beaucoup parlé du climax de Black Panther, mais qui en fait a été reshooté quelques mois avant la sortie du film, et donc les mecs qui ont fait ça n'avaient que quelques mois pour le faire. Et ça c'est le gros problème en fait. Dont The Marvels d'ailleurs, je suis surpris, s'en sort pas trop mal, parce que visiblement avec des reshoots à l'arrache comme le film en a eu, le film n'est pas trop laid, mais parce qu'en fait, les équipes d'effets visuels sont des contractuels, pris par Marvel, avec lequel Marvel passe des contrats, et donc il faut ensuite qu'on leur dise en 3 mois, il faut que vous ayez rendu ça, et donc démerdez-vous, rendez ça même quand vous ne pouvez pas en fait. Et du coup, bah, ça incite les mecs à faire plein d'heures sup, à faire donc, ce qu'on appelle le crunch, donc pour que le projet puisse venir à bout, accepter de ne pas dormir et de passer tes week-ends loin de ta famille. Ce qui a posé, tu cèdes, exactement,
pas,
mais aussi
cèdes.
Parce que comme ces gens-là sont contractuels, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des contrats avec des boîtes aussi énormes que Marvel, qui forcément appartiennent à Disney, qui fait les films série make live, tous les éléments où il y a plein de VFX partout. Donc quand tu es une grosse boîte comme Framestore, Scanline ou tous les autres d'ailleurs, ou même ILM et Weta, tu dois contenter le client, même quand tu as des deadlines absolument infernales à respecter.
Mais moi, je me posais vraiment la question, pourquoi c'est aussi versatile? Bon, là, en ce moment, on a vraiment l'impression que tout est de plus en plus moche. Et comme tu dis, The Marvel, au final, on n'a pas eu de moment hallucination visuelle où on était
comme
tous
Modok.
En train de... Ouais, voilà. On se demandait, qu'est-ce qui se passe? Et encore, moi, Modok, je me l'étais spoilé. Je me rappelle que quand j'avais vu la photo de Modok, où tout le monde se foutait de la gueule, en mode, on dirait du Rodriguez et tout ça, Spy Kids, j'avais pas compris que Modok, c'était un vrai personnage.
Ouais.
En fait, je me suis dit, oh, ça doit être Spy Kids.
Ouais,
ça doit être un truc de Spy Kids 4 que j'ai pas vu. Et genre, non, ça vient bien du film. Du coup, j'ai pas eu ce moment d'hallucination complètement what the fuck en voyant le film. Peut-être que ça m'aurait réveillé, j'aurais ressenti quelque chose devant le film, je sais pas. Mais je vous jalouse un petit peu de ça.
Faut bien comprendre que la différence avec avant, il y a même encore quelques années, c'est que Maintenant, des sociétés comme Marvel, à l'heure où la majorité des blockbusters reposent sur énormément de VFX, avant, tu avais 3-4 sociétés de VFX qui faisaient la plupart d'un film. Maintenant, tu en as 10 sur un projet comme Marvel. Tu regardes n'importe quel générique de Marvel, il y a au moins 10 sociétés de VFX.
C'est pour ça qu'ils sont aussi longs.
C'est aussi pour ça que c'est aussi long, les génériques, parce que tu as beaucoup de mecs accrédités sur ces films-là. Et en fait, tu as un pipeline très compliqué à créer, mais en même temps, ce qui pour moi crée le problème actuel de Marvel qui fait que c'est pire maintenant, c'est que non seulement Kevin Feige reste le grand Manitou qui contrôle tout et qui prend énormément de décisions alors qu'il y a trop de projets à gérer et qu'il peut pas tout gérer en même temps, et en parallèle tu avais Victoria Alonso qui d'ailleurs entre temps a été virée, donc grande chief executive de Marvel qui notamment gérait les questions de post-prod, qui en fait était intraitable sur ces questions là c'est-à-dire que si ça ne convenait pas, eh ben, il fallait tout changer, sauf que des fois les retours qui étaient faits aux équipes VFX étaient faites quelques mois avant la sortie. Donc des gens qui avaient bossé des fois d'ailleurs des heures et des heures sur des projets, sur des plans et tout ça, étaient virés du montage final, fallait tout reprendre depuis le départ, et avec des fois des problématiques où t'as rien de très clair qui est donné. T'as pas de concept art qui sont très clairs, t'as plein de trucs qui sont posés comme ça dans l'air, et ça donne des cas extrêmes où sur Spider-Man No Way Home, qui est assez connu maintenant, où Marvel a refait des copies du film pendant son exploitation, parce qu'il y avait des séquences, notamment l'arrivée d'Andrew Garfield, dont il n'était pas très content du rendu des effets. Et donc, ils ont refait la scène, une fois que le film était sorti, pour la remettre en salle avec de nouveaux DCP. Et ça coûte de l'argent de faire ça, en fait.
Mais ils n'ont pas fait exactement la même chose sur Thor 4, ouais. Avec l'espèce de tête flottante.
Ouais, ouais, c'est exactement ça.
Pour la ressortie sur Disney+. Là, ils ne sont pas fait chier, ils n'ont pas attendu la sortie, enfin, de le ressortir en salle, ils ont attendu Disney+ pour ça.
Après, regardez les espèces de scènes making-of qu'ils avaient faites avec Taika Waititi, c'était quand même assez lunaire.
Bah oui.
Parce que tu sentais tellement que Taika Waititi, je ne dis pas que c'est ce qu'il ressentait, mais en tout cas, c'est ce qui transparaît des vidéos, il n'en avait rien à carrer de son film. Et genre, les trucs qu'il trouve bof, bah, au final, ça le fait rire. Alors tu dis, si c'était un petit film étudiant que tu regardes avec 2-3 ans de recul et tu dis, oh là là, ça, qu'est-ce que c'était mal fait et tout. Mais là, c'est pas ça. Là, on parle quand même d'un blockbuster qui coûte énormément d'argent et avec ce truc de faire un petit peu par-dessus la jambe. Bon, là, du coup, on peut tacler directement Taika Waititi, mais je sais pas, par exemple, pourquoi Les Éternels, c'est pas moche ? Alors qu'il y a quand même une bonne grosse dose d'effets numériques. Chloé Zhao, elle avait pas forcément l'habitude de travailler avec énormément de VFX. Pourquoi le film, il ressemble à ça alors que Thor 4 ressemble à Thor 4 ?
Enfin, c'est très variable sur Les Éternels, je trouve. Mais je pense que la différence, elle est majeure. C'est que déjà, Chloé Zhao a quand même amené un truc un peu différent où elle tenait beaucoup au tournage en décor naturel. Mmh. Ce qui amène truc différent que Marvel fait de moins en moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mixes intelligemment décor naturel et prise de vue réelle et effet numérique, c'est plus simple d'implémenter le numérique quand t'as une référence de comment la lumière se met sur les éléments et tout ça. Donc je pense que le film est un peu plus beau pour cette raison là mais même là ça reste perfectible.
Oui, bah ça a quand même amené au plus beau plan du MCU, hein, avec ce coucher de soleil magnifique entre deux personnages. Dixit Kevin Feige, hein, qui n'avait donc jamais vu de coucher de soleil au cinéma, donc merci à lui.
Bah, il sait pas, il voit que des fonds verts toute la journée, donc
c'est vrai. Imagine, sa maison c'est un fond vert. Il peut mettre tout. Oh, aujourd'hui je suis à Hawaï, let's go. En fait, pas du tout, il est juste chez lui, sa maison elle est nulle à chier.
Je pense vraiment pas que la maison Kevin Feige soit nulle à chier.
Non, ça m'étonnerait pas que ce soit un fond vert par contre, mais surtout, je trouve que les Éternels a l'avantage en effet d'avoir été tourné en décor réel, mais surtout il se passe énormément sur Terre, qu'on soit honnête, et ça demande pas forcément énormément de travail, contrairement à Thor Love and Thunder qui, même si se passe en partie sur Terre avec New Asgard etc, se passe énormément dans l'espace, notamment le lieu de Zeus là, comment ils appellent ça,
une espèce d'Olympe qui est pas l'Olympe, je sais plus comment ils appellent ça, mais...
Et donc forcément, il faut tout créer, ça n'existe pas, tout simplement. Mmh. Donc forcément, il faut tout créer avec des effets spéciaux, des CGI, etc. Donc c'est plus complexe de tout recalibrer et compagnie, même si au fond, on y reste 15 minutes et que ça servira à rien parce qu'on ne verra plus jamais cet univers. Mais dans The Marvels, tu vois, il y avait un peu de ça aussi. Je trouve que dans The Marvels, ça a été un peu mieux géré. Il y a évidemment des calibrages dégueulasses, notamment quand elle vole avec Goose. Sur son épaule,
ah oui.
Et que t'as Goose qui est là, et tu fais, mais Goose il existe vraiment, et elle existe vraiment, ou genre.
Tu sens bien que les chats censés être mignons, ils te font plus peur qu'autre chose parce que c'est clairement du CG tout le temps, en fait, c'est pas des vrais chatons, ça fait un peu peur pour le coup.
Je crois que ce sont des vrais chats, hein. CGI, mais. Non, je crois avoir lu qu'ils ont tout. Je crois avoir lu que c'est tous des vrais chats et qu'ils ont un vrai prénom.
Ah oui, ils ont un scanné en CG derrière. Ils ont tout remis en CG par dessus. Quoi.
Je sais pas trop. Ouais,
parce que c'est un peu compliqué de faire ce que tu veux à un chaton. Genre tiens chaton, va là-bas. Genre si t'as déjà eu un chat dans ta vie, tu sais qu'il ira dans le sens opposé où tu veux qu'il aille.
C'est vrai que c'est compliqué. Surtout de manger des gens comme ça.
Oui, non,
je suis pas sûr que tous les chats acceptent. C'est quand même assez compliqué. Le mec ne comprend rien. Le mec est complètement paumé dans l'univers Marvel. Il croit que les chats peuvent manger des gens. Non, mais je suis d'accord avec vous sur les CGI. C'est qu'il y a un vrai problème, notamment de calibrage. Tu vois qu'à chaque fois, quand ils veulent calibrer des trucs, notamment au tout début de The Marvels, quand elle est sur la planète grise, qui ressemble à la même planète que dans Thor 4, là où ils vont sur la planète grise minuscule, oui, j'ai l'impression de retrouver d'accord. Les mêmes endroits, mais c'est pas les mêmes personnages, c'est pas en fait les mêmes endroits. C'est pas les mêmes enjeux et du coup tout se ressemble, comme quand on parlait des parkings ou etc. C'est toujours la même chose, sauf que c'est pas au même endroit, c'est pas tout à fait le même parking, mais ils ont pas d'autres templates, donc ils sont en mode let's go.
En fait, ça a toujours été le fonctionnement de Marvel, tu vois, c'était de dire t'as une équipe interne de concept artistes qui en fait font 150 dessins par semaine, et puis t'as des trucs que tu jettes, il y a des trucs que tu gardes. Tu vois, par exemple, un des Alexis Briclo, qui est assez connu chez Marvel pour bosser sur ça, avait par exemple créé un concept de MODOK qui était beaucoup plus monstrueux, qui avait quelque chose de plus intéressant sur le design, mais c'était une première phase qui en fait a été gardée pendant un temps avant que finalement Marvel aille sur autre chose, et d'où le fait que MODOK est aussi moche aussi, parce qu'en fait le changement d'approche sur le visuel et donc comment tu le réalises en CGI a été un peu fait encore une fois à la dernière minute, donc c'est ça aussi le problème.
Je trouve qu'avec MODOK il y a quelque chose de presque malhonnête qui fait que le film se fout de la gueule de MODOK et du fait qu'il soit complètement ridicule et qu'il ressemble à rien. Et en regardant le film, je me suis vraiment posé la question, mais comment le film peut en arriver à se foutre de la gueule de ces mauvais effets spéciaux, en fait? J'ai vraiment pas compris ça, parce que je connais pas le personnage de MODOK dans les comics, mais j'imagine qu'il pouvait avoir un côté un petit peu plus dramatique, pathétique en fait, oui. Et là on en est juste à le en fait en faire un truc ridicule dont tu te moques, faire un truc moche exprès pour t'en moquer, et ça j'ai vraiment pas compris.
Ouais, mais en plus il était attendu par les fans, hein. C'est quand même un méchant assez
c'est important chez Marvel,
voilà, c'est un personnage assez important qui peut être méchant, qui peut avoir il peut avoir vraiment un impact sur les super-héros, donc c'était assez bizarre de le voir ridiculisé de la sorte, sachant qu'en plus ils ont, Marvel, je pense qu'ils étaient conscients qu'ils allaient le ridiculiser par le fait d'avoir pris un personnage qui est devenu MODOK, mais qui était un humain à la base, ce qui n'est pas du tout le cas du comics à l'origine, dans ce que je crois avoir compris. C'est pas du tout, le personnage qui est joué par comment il s'appelle, Corey Stoll dans Ant-Man 1 et qui devient MODOK dans Ant-Man 3 sont les mêmes personnages dans l'univers du MCU, mais en vérité c'est deux personnages totalement différents dans l'univers des comics. Donc j'ai l'impression qu'ils ont voulu rattraper un peu, enfin ils savaient pas quoi mettre. Corey Stoll, Corey, t'as deux films en fait dans ton contrat, donc il va falloir que tu reviennes, on va te mettre en MODOK. Oui, on va t'étirer.
Oh, putain, le pauvre.
On va t'étirer le visage et tu vas devoir faire avec, mais bon, c'est comme ça, de toute façon, on ne voit plus nulle part. Donc. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir un peu jeté en pâture ce super personnage, mais tout comme le maître de l'évolution, j'ai envie de dire, dans Guardian. Hein,
ah non, moi j'aimais
qui,
bien.
Oui, mais qui peut être du coup un super personnage, mais qui finalement reste sur un film alors qu'il aurait pu être un vrai méchant.
Ah, dans ce sens-là.
Non, je trouve ça bien qu'ils ferment un peu des pans, tu sais, tous des trucs pour les fermer. Au bout d'un moment, tu peux pas du tout ouvrir en permanence, sinon on s'en sort plus.
Oui, bah c'est ce qu'ils ont fait. Et encore, sur Ant-Man 3, c'est MODOK qui est genre un méchant ultra secondaire qui est raté, mais dans le cas de She-Hulk, par exemple, où c'est quand même ton héroïne qui est infâme à regarder, et pas juste parce qu'elle est verte, quoi. Là, c'est un peu plus problématique en question de caractérisation du personnage. Enfin, moi, vraiment, j'étais hallucinée tout le long par cette série. Déjà par les visuels, enfin, y avait le côté scénario et tout, bon, on va pas trop en parler, mais sur le côté visuel, de la voir en intégration comme ça, marcher toute rigide, où on aurait dit vraiment des montages Canva qu'on peut faire nous en détourage Photoshop.
Ce qui prouve le vrai problème d'ailleurs de ces productions là c'est que Marvel a toujours eu un peu cette méthodologie de dire on jette de l'argent sur les problèmes, hein, ce qui est d'ailleurs un peu ce que des réalisateurs hollywoodiens qui se retrouvent sur des productions comme ça disent. En fait, tu te dis on te donne un budget, mais au final c'est pas grave, si ça marche pas, on remettra de la thune, on fera de la post-prod, on corrigera en fait. Et She-Hulk, les mecs qui ont fait les effets visuels le disent maintenant, ils n'ont jamais... Enfin, la méthodologie de post-production autour du personnage, de performance capture et de design aussi, tout simplement. Comment tu rends ce personnage-là ? C'est plus simple avec des personnages masculins parce que les pores de la peau et la manière de les transformer, c'est plus simple à appréhender et donc de créer Hulk masculin que Hulk féminin. C'est des trucs que les mecs ont évoqués sur les CG, mais c'est plein de problématiques comme ça qui étaient très compliquées pour eux et en même temps, avec ce côté aussi, ils voulaient un peu la rendre sexy quand même, ouais, ce qui est une autre aberration
ça,
du truc.
Ça, c'est l'autre truc que j'avais lu, que justement, ils avaient fait une She-Hulk qui était un petit peu plus imposante, un peu plus monstrueuse, et qu'au final, ils avaient eu l'ordre de la redessiner à chaque fois plus en plus fine. Donc tu dis, bon, ça veut dire que le personnage, ils ont dû le retravailler plusieurs fois, et donc ce que tu racontais avant, qu'au final, ils se sont retrouvés à toucher un personnage qui devait sortir sur les écrans quelques mois après seulement.
C'est ça.
Donc forcément, tu dis, bah oui, tous les moments où elle est seule à l'écran, déjà, ça fonctionne difficilement, mais alors quand elle est à côté d'autres êtres humains, alors là, c'est l'aberration visuelle.
Et ça, ce qui amène au problème majeur maintenant, c'est que dans ce cas-là, bah, ça fait péter le budget, en fait. C'est-à-dire que sur She-Hulk, t'en viens à des stades ridicules où les épisodes durent 25 minutes, comme une sitcom, mais ça te coûte aussi cher qu'un épisode de Game of Thrones de dernière saison, tu vois. Et tu te dis, c'est pas normal. On ne devrait pas en arriver à cette aberration-là. Secret Invasion, pour moi, le cas le plus catastrophique de laideur dans une série Marvel. Ouf.
Donc on Emilia Clarke plus... avec le bras de Drax.
En partie.
C'est
en
la
partie.
Seule image que j'ai de cette
le
série.
Mais pas, que, mais pas que. Toute la saison est moche. Toute la série est dégueulasse. Mais ça te coûte 200 millions à produire pour 6 épisodes de 40 minutes. Il y a un gros problème à ce moment-là. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas en fait dans leur méthodologie. Et en plus, ils en payent le prix parce que les gens ne viennent plus soit sur Disney+, quand c'est les séries, ou en salle, où maintenant, les budgets montent facile à 250 millions. Avant, Marvel ne dépassait pas la barre symbolique du 200 millions de dollars de budget, voire moins sur les personnages peu établis, où c'était rarement au-dessus de 150. Maintenant, c'est facile d'être à 250 millions, que ce soit les Gardiens 3, que ce soit Thor 4, que ce soit Ant-Man 3. Et là, il y a un vrai souci de ce point de vue-là.
Oui, mais surtout, pour revenir un peu sur le, est-ce que Marvel a conscience de ça ? Je pense un petit peu, parce que quand tu vois la fin de She-Hulk, où ils essayent de se moquer de eux-mêmes avec elle qui débarque dans l'univers, le vrai univers, quoi, et qu'elle vient de parler à Kevin Feige, qui lui-même est un algorithme, en fait. Et dire, ok, mais en fait, c'est qu'ils en ont conscience, je pense, que leurs films sont inaboutis en permanence, hein, généralement, on va dire. Mais je sais pas s'ils le prennent, s'ils veulent dire oui, on est désolé de faire ça, ou s'ils sont juste ironiques en mode de toute façon, vous allez les voir, donc on s'en fout. Le problème, c'est que maintenant, bah, plus personne vient les voir, ou en tout cas moins de monde, et donc ça devient un peu galère, j'ai l'impression. Et peut-être que ça va peut-être les faire réagir, je sais pas.
Bah, je me dis, si t'as Thor 4 qui repasse en post-prod, même si c'est juste pour une scène, c'est qu'ils ont bien conscience que quelque part il y a un problème. Quand ils ont fait le réactif sur les images de She-Hulk, où après la première bande-annonce, les gens étaient en mode comme pour le Sonic moche, en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et qu'ils ont réagi quand même assez rapidement pour dire que voilà, c'était qu'une bande-annonce et qu'il allait y avoir des petits correctifs et tout ça. C'est bien qu'ils ont conscience au bout d'un moment que le public, il est pas con non plus. Genre, il voit bien que ce qu'on lui sert, c'est de la daube.
Ouais, mais tu vois, moi, en fait, moi, j'ai un problème avec tout ça. C'est comme pour le truc de Sonic. C'est-à-dire que, je veux dire, Sonic, le mec qui a designé le hérisson bleu, il était pas tout seul. Enfin, je veux dire, ils sont des centaines à regarder.
Bah, si ça se trouve, c'est pour ça qu'il ressemblait à ça.
Il y a au moins des dizaines de gars qui valident, qui sont en mode, vas-y, c'est bien, vas-y, continue. Il y a des échelles, il y a des étapes de validation, quoi. C'est pareil pour les effets spéciaux dans les Marvel. Et je ne comprends pas comment ils peuvent se dire, ok, c'est pas mal, et quand ils dévoilent le trailer, tout le monde dit mais c'est dégueulasse. Mais oui, mais frère, mais vous êtes aveugle ou quoi? Oui, évidemment que c'est dégueulasse, en fait, vous devriez le savoir. C'est juste que je ne sais pas comment sont validés les trucs finaux. C'est juste peut-être qu'ils sont tout simplement aveugles ou inconscients de ce qu'ils font.
Pour le coup, je pense que déjà on sous-estime à quel point le public s'est tellement habitué à voir des trucs moches à l'écran, en sachant que c'est du CGI, qu'en fait ils en oublient presque que les vrais bons CGI, tu les oublies, ou quand t'es sur un vrai truc d'imaginaire, tu dois être vraiment bluffé comme devant un avatar par le rendu de ces choses-là. Et ce que tu révèles, il est plus global, en fait. C'est que le vrai problème, on parle de Marvel comme étant un symptôme global d'une industrie en crise, qui est justement celle des studios qui de toute façon fonctionnent comme ça depuis maintenant des années, qui se sont habitués à fonctionner comme ça avec les équipes de VFX parce qu'ils ne pensent pas assez à la pré-prod, donc le tournage est catastrophique et donc tout doit être récupéré en post-prod, doit être retourné, réécrit en permanence. Et c'est un problème plus global, en fait, qui non seulement fait grimper les budgets de manière obligatoire, Et là, on l'a bien senti avec Marvel qui a essayé de rattraper des trucs pendant le Covid, notamment qui a profité du Covid aussi pour rebosser des productions, mais aussi d'en arriver à des aberrations. Par exemple, moi, je trouve que c'est quand même un truc dont il faut parler, c'est que les séries Disney Plus n'ont eu au départ aucun showrunner, comme tu en as logiquement sur des séries télé. Et c'est un truc majeur. T'as justement plusieurs grilles d'évolution dans une série télé, plusieurs chaînes de décision où t'as des réalisateurs d'épisodes, mais qui sont plus des exécutants avec un showrunner derrière qui chapeaute l'entièreté du truc. Et Marvel était tout content de dire « Nous, on n'a pas de showrunner, on a des réalisateurs qui prennent le truc en main. » Et bah, si c'est pour avoir Secret Invasion, c'est peut-être pas la peine, en fait. Et là, d'ailleurs, Marvel l'a appris à la dure. Ils se sont dit « Ok, c'était peut-être une connerie, on va peut-être remettre des showrunners maintenant. » Mais j'ai envie de dire, le mal est fait, c'est déjà trop tard, en fait.
Parce que c'est ce qui s'est passé sur Daredevil, non ? Genre, toutes les équipes ont été virées et là, ils sont en train de chercher une nouvelle équipe avec un ou une showrunner.
C'est ça, parce que là, ils se rendent compte que juste mettre plus ou moins un créatif ou deux, enfin, plus ou moins des producteurs exécutifs et un réalisateur, réalisatrice, comme sur Captain Falcon et le Soldat de l'Hiver ou Secret Invasion où les réals font tous les épisodes, ça marche pas au bout d'un moment, en fait.
L'autre problème, et tu l'abordais déjà rapidement tout à l'heure, Antoine, c'est que si les budgets augmentent, il faut qu'au box-office, ça suive. Sauf que là, on est clairement en train de voir que c'est pas le cas. Bon, évidemment, on va pas parler de tous les films qui sont sortis pendant la pandémie, parce que avec les sorties hybrides sur Disney Plus et au cinéma, c'est un gros bordel. Mais on peut prendre quand même le cas Ant-Man 3, qui est assez révélateur. Oui, la franchise Ant-Man, c'est jamais celle qui a fait les plus gros chiffres, mais Ant-Man 3, c'était le film qui ouvrait la phase 5. Phase 5, je dis pas de conneries.
C'est ça.
Phase 5, et qui était censé introduire, qui a introduit Kang le Conquérant, donc le grand méchant teasé comme le Thanos machin. Résultat des courses, 476 millions au box-office mondial. Là, comme ça pourrait paraître bien, mais c'est clairement pas assez pour un film de son calibre.
Bah oui, parce qu'il a coûté 200 millions, donc forcément, quand tu gagnes que 476 millions au box-office mondial pour 200 millions, c'est pas suffisant, même si ça a l'air d'être suffisant. Il faut bien plus du double au niveau mondial pour réussir quelque chose, sachant que le deuxième Ant-Man, il avait fait 622 millions, et pourtant c'était déjà une énorme daubasse pour Marvel, en termes de, j'entends commercialement. Donc c'est un peu compliqué, et surtout le problème de Ant-Man 3, c'est qu'il lance une phase. Donc oui. Si la phase, elle se lance déjà avec un échec, ça donne des très mauvais signaux, sachant que déjà lancer une phase 5 avec Ant-Man en tant que grand héros, alors que le gars il sert à rien depuis le début dans l'univers Marvel.
C'est plus le royaume quantique qui est important plutôt que Ant-Man.
Mais en fait le truc.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Le truc, c'est que ils sont censés lancer un grand méchant, donc pourquoi pas, tu vois, ils lancent un grand méchant, c'est Kang, etc. Mais Kang, il perd contre Ant-Man. Et c'est le grand méchant.
Il perd contre des fourmis, techniquement.
Je comprends plus. C'est-à-dire que le grand méchant, le nouveau Thanos de l'univers, perd contre l'un des super-héros les plus nuls de l'univers Marvel. Il n'est pas prêt de gagner contre Iron Man et Captain America, quoi.
Mais ce qui pose, tu vois, ce qui est assez révélateur avec Ant-Man 3, c'est surtout qu'au vu de sa réception, c'est quand même ça aussi qui a clairement joué sur son box-office et qui révèle un problème plus large, c'est que Marvel jusque-là avait un enjeu majeur, c'était d'attirer un maximum de fans et de spectateurs curieux sur les premières semaines, et que quand bien même les films n'étaient pas toujours terribles, c'était pas si grave parce que ça allait quand même cartonner sur la durée. Là, on voit bien que l'absence de bouche à oreille, ou du moins le bouche à oreille négatif, joue clairement contre eux. Donc là, Ant-Man 3 en est l'un des plus gros représentants, mais c'est aussi le cas de Thor 4 hein, qui est à 760 millions de dollars de recettes, contrairement à Ragnarok qui était lui à plus de 850. Donc il y a quand même un écart qui aurait pas dû être là, parce que bah, Thor a toujours plus ou moins augmenté par rapport au volet précédent, et il aurait dû augmenter aussi, et ça se sent clairement sur les box-office, en particulier sur celui de The Marvels, qui a connu la plus grosse chute de fréquentation de l'histoire du studio, avec plus de 78% de perte de spectateurs sur sa deuxième semaine. C'est juste gigantesque.
C'est plus que la perte de spectateurs entre la première et la deuxième semaine de Morbius.
Ouch.
Ouais, voilà, c'est dur. Et c'est vrai que dans les box-office, on a tendance à parler des résultats globaux et en fin d'exploitation, mais il faut rappeler aussi que c'est le démarrage le plus catastrophique de Marvel jusqu'ici, 46 millions de dollars. Donc là, comme ça, ça veut peut-être pas dire... Oui, au box-office américain pour le démarrage national. Donc là, comme ça, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais Ant-Man 3, donc il n'y avait pas une immense excitation autour, il a quand même fait 106 millions pour son week-end d'ouverture. Black Widow, 80 millions, alors que c'est sorti, pendant le Covid. Ant-Man 2, c'était 75 millions, et déjà, on parlait d'un truc catastrophique. Donc, c'est vraiment la preuve qu'il y a un désintérêt, ou si c'est pas un désintérêt pour le film en lui-même, c'est pour l'expérience en salle du film, aussi parce que, bah, évidemment, on a vu ça pour les films d'animation de Disney ou Pixar. Plus t'habitues un public à avoir quelque chose sur une plateforme ou à pouvoir le télécharger après de façon illégale et tout ça, bah forcément, oui, ça joue sur les habitudes de consommation. Et où, là où avant, il fallait être day one en salle pour avoir la scène post-générique et tout ça, pour être bah, dans une espèce d'euphorie collective, bah on est en train de perdre ça progressivement.
Ce qui a fait que même, nous, on s'en était inquiété, hein, mais les Gardiens 3, sur le moment, avaient un peu fait peur, puisqu'il avait fait un démarrage en dessous de celui du 2, et le premier était une franchise tellement émergente chez Marvel qu'elle n'avait pas, évidemment, fait un truc énormissime au départ, mais les Gardiens 3, au final, ça en est très bien tiré parce qu'il s'est justement très bien maintenu grâce à un bouche à oreille très positif, mais il reste un peu en dessous du deuxième. Alors que en conclusion de franchise, après Endgame et au vu de tout ce qui s'est passé avec les Gardiens, il était logique que le film pète tous les records. Mais comme là aussi, d'ailleurs, il a coûté 250 millions de dollars à produire et plus de 100, bah, à rembourser, c'est plus compliqué. Et au final, le film est rentable. Hein. C'est même plutôt un succès pour Marvel, surtout dans le contexte actuel. Mais sur le moment, je me souviens que bah, quand les premiers chiffres sont sortis, on s'était un peu dit « Ah là là, ça sent vraiment mauvais pour Marvel. » Parce que si même ce film-là, qui est l'exception un peu actuelle, n'arrive pas trop à s'en tirer, ça devient vraiment compliqué.
Ouais, et je pense qu'il faut quand même qu'on note un truc pour les productions Marvel depuis le début de la phase 4. C'est qu'en fait, plus aucun de leurs films, ou alors je ne sais plus quel est le premier qui est sorti depuis longtemps, dans les derniers qui a réussi, mais ils ne sortent plus en Chine, qui est quand même, c'est pas le plus gros marché, c'est pas le plus gros marché pour le Marvel, contrairement par exemple à Fast and Furious qui gagne énormément là-bas, et à l'inverse de Star Wars qui marche pas du tout en Chine. Mais Marvel, c'était quand même quelque chose qui pouvait être, c'est déjà pas mal de thunes à emmagasiner, juste rien qu'avec la Chine. Mais quand tu vois qu'ils ont fait les Éternels en partie pour essayer d'aller chercher un public asiatique, et ben qu'ils ont pas pu le sortir parce que Chloé Zhao, elle a eu des propos anti-Chine, en tout cas vis-à-vis des, en tout cas le gouvernement chinois le voit ainsi.
Et puis il y a le personnage homosexuel aussi, donc ça avait posé problème.
Voilà, il y a eu ça. Pareil pour Shang-Chi, hein, qui devait quand même attirer un public asiatique, notamment chinois. Bah, il peut pas non plus sortir en Chine, parce que je sais plus quel acteur avait fait une remarque sur la Chine et la Chine a dit ça nous plaît pas, donc on va pas le sortir. Donc c'est marrant d'avoir fait autant de films, de créations pour aller chercher un public asiatique, donc avec des personnages asiatiques hein, j'entends, et qu'au final bah, ils puissent pas les sortir. C'est aussi de l'argent balancé, beaucoup d'argent mis dans
une
production et qui finalement ne peut pas revenir, alors que en conservant d'autres idées en tête, ils auraient peut-être pu, tu vois. Enfin, s'ils n'avaient pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas que...
Il ne faut pas qu'il y ait de personnages asiatiques chez Marvel.
Non, justement. C'est pas ce que je veux dire. C'est justement... Ça me dérange pas du tout. Je m'en fiche. Mais c'est pas de chance pour eux que le gouvernement chinois soit aussi...
Réfractaire,
susceptible,
voire,
on peut le dire.
Autoritaire, et etc. quoi.
Et puis, il y a eu d'autres territoires. Hein. Pareil, les personnages... de couple lesbien dans Doctor Strange qui a fait que le film n'est pas sorti dans plein de territoires et que Marvel n'a pas voulu couper, donc ça c'est bien,
c'est très bien qu'il n'ait pas coupé,
il faut pas qu'il coupe les scènes, mais du coup ça fait que plein de territoires censurent les films, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où notamment Disney était plus arrangeant et coupait les petits passages de bisous entre hommes ou entre femmes qui pouvaient déranger certains pays. Maintenant ils le font plus, donc tant mieux, mais ça leur en coûte au box-office.
Bah là, au box-office The Marvels, parce que je crois qu'on n'a pas cité ce chiffre terrible, mais pour l'instant, bah, le film est à 188 millions de dollars au box-office mondial.
Ce qui est quand même très peu. Bah, c'est un des pires scores ever de Marvel sur, après plusieurs semaines de sortie comme ça.
Là, bah, à moins d'un miracle, bah, ce sera le plus gros échec de Marvel, si je dis pas de conneries.
Oui, non, bon, surtout au vu du budget. Hein, ça veut dire que le film va clairement leur faire perdre de l'argent, ce qui, je pense, est plus ou moins une première, parce qu'il y a aucun film qui était, justement, même Ant-Man 3 est techniquement rentable, en fait. Donc jusque-là, quand Marvel faisait de l'échec, c'était quand même rentable. Et là, c'est la première fois que Marvel ne serait pas rentable. Et là, il y a de quoi s'inquiéter quand même.
Bah, surtout que d'un autre côté, on pourrait penser que bon, bah, les films, ils ont une seconde vie très rapidement sur Disney+, et il y a les séries, certes, elles coûtent cher, mais les gens les regardent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que même là, on se rend compte que Disney+ n'est pas viable.
Ouais, parce que du coup, le cas de Disney+, c'est quand même super intéressant. Lancé en 2019, l'idée était quand même pour... Enfin, on a vu le succès quasi immédiat de Disney+, qui pour le coup était assez impressionnant et qui rattrapait petit à petit Netflix. Sauf que le problème, il est là, c'est que toutes les plateformes de streaming qui se sont lancées au même moment n'ont pas compris qu'au bout d'un moment, le bassin d'audience, il s'arrête. Donc, il s'arrête souvent autour des 200 millions d'abonnés. Et quand bien même, bah, tu fais augmenter le prix de ton abonnement et ce genre de trucs-là, comme tu veux que les gens restent, il faut donner du contenu et il faut mettre du contenu de plus en plus qualitatif, a priori, qui te coûte cher, sauf que tu n'es pas sûr de la rentabilité que ça t'apporte derrière. Et Disney+, a un gros problème là-dessus, c'est que même par rapport à Netflix, qui peut produire des trucs à petit budget, eux, leur gros truc, c'est évidemment les franchises Star Wars et Marvel. Donc, faire des séries autour de ça, ça coûte très cher.
En plus, elles se superposent ou elles se suivent quasiment, parce que là, il y a eu la fin d'Ahsoka et directement la même semaine, il y avait le début de Loki.
Ouais,
et donc, on est vraiment dans un cycle infernal où, bah, comme on disait avant...
Pour nous en particulier, c'est
ouais,
un
voilà.
peu un problème.
Où on disait clairement, bon, bah, si t'es sur Disney+, a fortiori, tu payes pas un abonnement Disney+, juste pour regarder les séries Marvel. C'est qu'en général, t'es quand même attiré par d'autres marques, tu vas aller un petit peu fureter à droite à gauche. Donc au final, au bout d'un moment, encore une fois, il y a que 24 heures dans une journée. On passe pas 24 heures, même nous, devant un écran pour regarder des trucs.
C'est ça.
Donc, au bout d'un moment, il y a un surplus. Et il y a des chiffres. On voit que le taux de visionnage baisse, non ?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, les Américains se basent beaucoup sur Nielsen, parce qu'il y a un truc qui fait des statistiques selon assez précises sur ce que regardent les Américains en particulier. Mais bon, il faut se contenter de ça, malheureusement, puisque les plateformes ne donnent pas, eux, leurs chiffres.
Ouais, ils te disent juste si c'est un... Non, ils diront jamais que c'est un échec. Ils te disent juste que c'est un succès, mais
bah,
sans chiffres.
Mais en fait, si tu te bases sur plusieurs stats, la première, c'est celle du taux de visionnage du premier épisode. Bah on voit quand même que Disney+ démarrait bien, alors ça se calcule en millions d'heures du coup, hein, et en fait WandaVision, Falcon et Loki étaient autour des 80-90 heures, donc c'était plutôt pas mal, et justement Loki saison 1 était pendant très longtemps le plus gros carton, et d'ailleurs encore aujourd'hui avec Mandalorian saison 2, le plus gros carton de Disney+ dans ce domaine-là. Sauf que plus t'avances, et plus tu fais une moyenne de tout ça, plus tu vois que ça baisse en fait, jusqu'à atteindre alors le pire du pire qui est Secret Invasion, qui est à la moitié, qui a même pas la moitié de Loki en termes d'heures de visionnage sur le premier épisode. Pareil pour She-Hulk. Alors She-Hulk, ça justifie un peu parce que les épisodes sont plus courts, mais même là, tu vois qu'il y a clairement une baisse de régime en fait.
Et puis surtout qu'il y en avait plus, donc peut-être qu'on pouvait trouver un point d'équilibre.
Alors juste sur le premier épisode, mais après, si tu prends pour tous les épisodes le million d'heures par moyenne selon le nombre d'épisodes, là c'est encore plus catastrophique pour Secret Invasion et She-Hulk, qui sont vraiment les séries les plus basses de toute l'histoire de Disney+, avec 5 millions, un truc comme ça, alors que t'es à 16 sur Loki, quoi. Donc c'est la différence est majeure. Et du coup, si tu fais une moyenne, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois que ça baisse à peu près d'un tiers. Donc en fait, Disney+ perd, malgré son taux d'abonnement qui est à peu près stable, un tiers de ses spectateurs réguliers sur ses grosses séries censées introduire des personnages importants pour la suite.
Ah oui, c'est ça, parce que, bon, ok, She-Hulk, ça introduit She-Hulk, obvious, mais il y a aussi le personnage de Daredevil qui avait été annoncé, son grand retour dans She-Hulk, qui n'a même pas été un argument de vente à la hauteur, en fait, étant donné que tout le monde s'en fiche gentiment, et puis pour les quelques personnes à la rédac qui ont vu le retour de Daredevil, ça avait pas l'air d'être le truc le plus grandiose de l'année.
Nope.
Et quand on sait que, du coup, bon, il avait son petit caméo, là, dans No Way Home, mais que tout ça, c'était aussi pour l'introduire dans sa nouvelle série Disney+, et tu te dis, mais si maintenant ils en sont à bah, un petit peu comme ils ont fait avec Boba Fett, quoi, faire des spin-off de séries qui sont teasés dans les spin-off de séries, bah, c'est bon, tu t'en sors pas en fait.
Et qui fait que là, tout le monde se désintéresse. Hein. Star Wars, c'est d'ailleurs la même dynamique. Hein. Mais quand tu prends Moon Knight, quand tu prends Miss Marvel aussi, qui est pas trop dans les stats de Nielsen, mais on sait que Miss Marvel avait vraiment déçu. ça commence à devenir un problème. Et encore une fois, je rappelle que Secret Invasion a coûté plus de 200 millions de dollars à produire et que c'est à l'heure actuelle le plus gros flop de l'histoire de Marvel en série télé sur Disney+. Ce qui est catastrophique pour eux, étant donné qu'en plus la série avait quand même une ampleur et une ambition qui ne voit pas à l'écran, mais qui était censée théoriquement être là quand même.
Bah oui, bah, surtout que c'était quand même une des histoires les plus folles de l'univers Marvel, tout simplement. Ouais. T'as une histoire où t'as... En fait, c'est trop marrant d'avoir fait Secret Invasion où t'as tous les super-héros qui sont censés être potentiellement bah, des Skrulls, et du coup...
Chris Prol, je connais bien.
On l'avait, évidemment. Non, mais t'avais cette super histoire, et au final, ils n'ont rien pu en faire, puisque, de toute façon, tous les grands super-héros ne sont pas dans la série. Donc, c'est super. War Machine, je suis grave chaud de savoir si c'est un Skrull ou pas un Skrull. Hein, vraiment, quel suspense. Non, mais du coup, en fait, c'est inintéressant au possible, alors qu'ils ont une super idée. En fait, ils ont souvent des bonnes idées, mais c'est tellement mal concrétisé et exécuté que c'est dommage.
Mais She-Hulk, c'était tellement le cas de She-Hulk qu'on te vend du coup la première vraie sitcom, format sitcom juridique et tout, tu dis waouh, grave bien, et puis après je sais plus quel membre de l'équipe qui te dit après la sortie du truc, ouais on s'est lancé sur un truc juridique mais personne savait écrire de série juridique. J'ai dit, mais c'est lunaire. Enfin, déjà rien que le fait que ce soit le cas c'est lunaire, mais en plus de le dire dans une interview, mais c'est d'autant plus lunaire.
Bah surtout qu'en plus, j'imagine qu'il n'y a aucun scénariste à Hollywood qui savait écrire des séries judiciaires. Hein. Donc,
Aaron Sorkin qui écrit She-Hulk, t'imagines. Oh là là.
Non mais je suis d'accord avec toi. En plus, il y avait tellement de moyens de... She-Hulk, ça pouvait tellement être la porte ouverte gratuite pour Marvel. Enfin, gratuite même si ça coûte des millions. Hein. Mais d'introduire des personnages pour l'avenir de manière extrêmement simple et basique, genre lui c'est un méchant, voilà son background, elle va le sauver, il va partir et il va redevenir méchant ou il va devenir gentil, on s'en fout, mais il y a un personnage qui est établi et voilà, il va dans quelques mois, années, il sera dans ce film et on saura d'où il vient. Et en fait ils ont jamais fait ça, ils ont préféré faire un fil rouge sur la vie sentimentale de She-Hulk. Bon, ma foi, pourquoi pas si c'est une sitcom, mais c'est tellement d'actes manqués en fait avec cette série.
Ouais, ou alors c'est ressasser des personnages dont t'avais pas tellement besoin d'avoir des nouvelles, genre ouais. Abomination.
Exactement.
Genre qu'est-ce que honnêtement ce personnage, bah j'avais fait son deuil, non, comme si j'en avais quelque chose à foutre.
Et il est censé être mort en plus, enfin d'où en fait il est pas mort.
Ouais,
merde.
C'est ça. Puis t'as Wong qui débarque et qui du coup change de caractérisation et devient une espèce de clown. Enfin vraiment, je me demande mais pourquoi ce sont ces personnages que vous nous remettez sur le devant de la scène. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces personnages. Pourquoi vous avez pas mis plus d'attention sur le retour de Daredevil qui était quand même censé être le gros truc, et pourquoi c'est plus la série de Hulk, de She-Hulk, enfin, beaucoup.
Parce que c'est le paradoxe, c'est qu'à la fois c'est des séries qui sont censées, on te dit c'est important, hein, faut que tu les regardes parce que c'est lié au film, mais en même temps t'as quand même un peu les fonds de tiroir, et il y a le problème. C'est d'ailleurs cette sensation qu'on évoquait la semaine dernière sur le problème de ne pas arriver à faire de nouveau Iron Man et de nouveau Captain America, c'est que en fait, déjà à l'époque, c'était des fonds de tiroir, mais ils arrivaient à 35 importants. Et là, en fait, on pourrait te rendre Moon Knight important, on pourrait te rendre Kate Bishop méga importante dans l'univers. Et techniquement, ils le sont en plus dans les comics et compagnie. Mmh. Et là, juste à la sensation, effectivement, d'actes manqués et de trucs où t'as fini de regarder, tu fais ça aurait pu être un film de 2 heures, je me suis fait chier 3 heures pour rien, et je sais pas où ils vont avec ce truc-là, donc je m'en fous.
Puis il y a aussi dans l'autre sens, parce qu'on a pas mal parlé des séries Disney+ qui introduisaient des personnages qui ensuite se retrouvaient au cinéma, mais genre dans le cas de Iron Heart, Riri Williams, genre personnage complètement anecdotique et oubliable de Black Panther 2, du coup ils veulent faire une série sur elle, mais qui va regarder ça après son introduction dans Black Panther 2
qui, en plus, c'est un des pires éléments de Black Panther 2. Oui. Elle est le MacGuffin du film un peu malgré elle, et tu sens que c'est tellement l'élément mis au chausse-pied dans le film parce que justement on doit teaser sa série plus tard. Là-dessus, clairement, Marvel a mis la charrue avant les bœufs en ne se disant pas « Attendons peut-être de voir que des personnages marchent bien pour ensuite leur donner autre chose et voir leur donner une série. »
Là, par exemple, pour Loki, je trouvais que c'était une bonne idée. Le public connaissait déjà Loki. Enfin, c'était déjà un personnage qui était bien introduit, caractérisé. Là, il s'agissait vraiment de le creuser, de le mettre lui sous la lumière, de prendre un personnage qui était quand même très populaire et aimé des fans. Et donc là, on en avait quelque chose à faire et on pouvait attendre cette série comme... dans une moindre mesure Hawkeye, qui était clairement celui qui, la huitième roue du carrosse des Avengers. Bon, bah, tu dis, allez, à la rigueur, pourquoi pas, mais j'ai vraiment du mal à comprendre une série Iron Heart ou Agatha Harkness, qu'est-ce qu'on peut en avoir à péter ?
C'est ça, ou même Echo, hein. En soi, sur le principe, Echo excite un petit peu plus sur le côté un peu bagarre. Plus mature, bagarre, machin et tout, si tu veux, tu vois. Mais, et moi, le premier, hein, la bande-annonce m'a un poil surpris. Mais je me dis, mais qui va regarder ça, en fait? Et personne, enfin clairement personne va regarder ça. C'est... Et en fait là-dessus Marvel je pense s'est senti intouchable depuis Endgame en se disant c'est bon, on peut tenter ce qu'on veut, on ne peut pas se planter. Et ils y sont allés en se disant c'est pas grave, tu vois, lançons 10 000 spin-offs, au pire du pire, même si ça marche pas, on arrête pour les trucs vraiment anecdotiques. Et tant que le fil rouge de la saga se sent, c'est bon. Et les gens continueront de regarder, sauf que bah, les gens ne regardent plus. Et là on le voit, il n'y a pas les chiffres définitifs, mais même la saison 2 de Loki pourtant... plutôt apprécié aux États-Unis, c'est pas notre cas ici, mais ça a été plutôt le cas aux États-Unis, a quand même enregistré là aussi bah, une perte assez logique d'un tiers à peu près des spectateurs par rapport à la saison 1.
Mais d'ailleurs, ça, ils vont pas changer sur Echo, parce que jusqu'ici, c'était des diffusions épisodiques, donc un épisode par semaine, ou genre un lancement de 2 ou 3 épisodes et après par semaine, et là, pour Echo, ça va être balancé d'un seul coup, donc ils sont en train de torpiller...
La méthode Netflix, comme on l'appelle.
Ah, je sais pas si c'est balancé d'un coup, Echo.
Ouais, je suis pas sûr de ça.
C'est What If qui va être balancé tout
oui,
d'un
c'est
coup.
What If. Ouais, What If. Oui, bah,
c'est
ça, What If, bon,
What
c'est
If, c'est pas d'un coup, mais c'est un épisode par jour.
Super.
C'est une sorte de calendrier de l'Avent après Noël, donc c'est cool.
Et puis quel calendrier de l'Avent,
ouais,
c'est
génial.
Avec des chocolats
What
au caca,
if
quoi.
C'est... Mais... MCU was good.
En y pensant, même What If, c'était censé être cette pastille qui était déconnectée du MCU, où t'avais un petit épisode un peu genre, oui, bon, qui est du fanservice, mais qui pouvait être des trucs un peu marrants, ludiques. Et même ça, au final, bah, ça va y avoir des suites et ça a été intégré au film. Ouais. Donc même ce qui était censé être le petit plaisir indépendant et facultatif, bah, ça devient un truc que t'es obligé de te farcir.
Ouais, t'es obligé de voir l'épisode avec Captain Britain pour comprendre pourquoi il y a Captain Britain dans Doctor Strange 2 en mode, oh, je comprends la ref. Et tu fais, mais... Enfin, tu sais, c'est vraiment la vanne que fait Captain America dans le premier Avengers en mode I understood that reference, et maintenant Marvel est vraiment purement et simplement devenu ça, mais de la manière la plus triste du monde. Et c'est ça, surtout que sur What If, il y a une déception énorme, c'est que tu te dis les épisodes les plus attendus, notamment évidemment le Marvel Zombie, est le truc le plus pété de la série, quoi. Alors que c'était ça, où c'était là que le truc devait vraiment te surprendre, quoi. Tu te dis vas-y, allez-y, faites-moi un truc vraiment fun. Et au final, moi, je retiens surtout l'épisode, même s'il a été beaucoup moqué avec Ultron, qui devient vraiment Ultron, avec les pierres d'infinité, qui bute Thanos en 2-2, et qui du coup sort d'ailleurs de la narration de What If pour trouver le narrateur de What If. Là, il y avait un truc un peu fun, mais c'est tellement anecdotique dans l'énergie globale de la série que... Et en plus, c'est très moche, hein, on oublie de le dire, mais What If, là aussi, le côté animation, oui. C'est tellement paresseux par rapport à notamment ce que fait Star Wars Visions en parallèle. Là, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Hein.
Mais bon, là, on a quand même, je sais pas vous, mais l'impression que Marvel est un petit peu en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui déconne et que oui. Du coup, il y a les choses qui sont un petit peu en train de se décanter. Ne serait-ce que Avengers 6 qui a été repoussé. Mm-hmm. Parce qu'au départ, c'était la grande nouveauté. Au Comic-Con de San Diego en 2022, Kevin Feige a craqué son slip. C'est-à-dire qu'il a annoncé que Avengers 5 sortirait en mai 2025 et Avengers 6 en novembre 2025 aussi.
Et il faut rappeler que c'est quand même au même moment que les artistes en VFX commençaient à vraiment pousser la gueulante sur les conditions de travail infernales, et je me mets, tu vois, à la place des mecs qui devaient avoir commencé à dire ça, et au même moment t'as Kevin Feige qui te dit il y a 2 Avengers en 6 mois, et les mecs ont dû faire quoi? On va mourir.
Donc au final ça a été repoussé, Avengers 6 a été repoussé à 2027. Et on s'était posé la question en préparant la réu, est-ce que ce serait pas la solution pour tout rebooter? Faire en fait comme dans les comics, au bout d'un moment, il y en a trop, ça déborde dans tous les sens. Bah, on fait un méga événement qui reboot tout et après chacun reprend de son côté.
Et on remet un Iron Man, s'il vous plaît.
Bah, en vrai, c'est possible en fait. C'est que. Donc, entre. Moi, je pense que. Depuis The Marvel, bon, il vient de sortir, mais avec les scènes post-génériques de The Marvels, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Tu le sens. Il y a d'un côté les Young Avengers, bon, ça va être une petite histoire avec les Young Avengers, bon, c'est pas très intéressant, mais au moins, ça y est, il y a une formation d'équipe qui arrive, et on va voir une équipe, a priori dans un film qui n'est pas encore annoncé, mais il sera annoncé un de ces quatre. De l'autre, tu vas voir les X-Men qui vont arriver aussi, puisqu'elle est dans le multivers Monica Rambeau avec probablement des X-Men dont on ne sait pas si c'est les X-Men dans avant de ceux qu'on a connus avec la Fox dans les années 2000 ou si ça va être d'autres X-Men, mais en tout cas les X-Men, ça y est, ils rentrent. Et l'année prochaine, en 2024, tu as quand même un signal fort, c'est qu'il n'y aura qu'un film Marvel, il y a Deadpool 3. Donc Deadpool 3, a priori, vu les décors, les on va dire les photos qui ont fuité sur Internet, les leaks, a priori, vont se moquer un peu de la Fox, ou en tout cas du système de prod, etc.
Il y a une ruine de la Fox, voilà, qui est aperçue dans une des images leakées du film.
Et donc, ce serait pas étonnant qu'ils se moquent un peu potentiellement des anciens personnages pour en faire revenir de nouveau, ou je ne sais quoi.
Et pour jouer sur l'état de ce multivers un peu foutraque, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Je pense. Donc, ça pourrait être une forme de début de « on remet les choses en place ». Et après, tu vas avoir des gros films quand même qui arrivent. Tu as les 4 Fantastiques, qui est censé arriver quand même début 2025, puisque mai 2025, parce qu'il n'y a rien entre Deadpool 3 et celui-là. Tu vas avoir Thunderbolt. Bon, voilà, ça, c'est l'aventure de la Suicide Squad de Marvel. Tu as Blade. Bon, alors, on verra si ça existe. Parce que, bon,
parce que Blade, ça fait 2-3 ans là, qu'il en parle.
C'était au Comic-Con de San Diego que ce film a été annoncé quand même. Il devait faire partie de la phase 4, il me semble.
Ah oui, d'accord.
Ouais, okay. Il devait sortir... Il devait sortir il y a un petit moment. Je crois qu'il devait il me semble qu'il devait sortir en novembre 2023. On est bientôt en décembre 2023. Donc
il y a toujours pas de scénario de Blade, visiblement.
Toujours pas de scénario. On sait toujours plus si on sait pas s'il y a un acteur. D'ailleurs, on sait plus si Marshall, il veut rester. Hein. Non, enfin, a priori, il va rester, mais en tout cas, on sait pas trop. Et donc il y a The Kang Dynasty. A priori, Avengers The Kang Dynasty, donc Avengers 5. L'objectif, ce serait de toute l'équipe des Avengers s'ils réussissent à battre Kang. Le problème, c'est qu'à la fin de Kang, il y aurait deux possibilités. Donc, à la fin de Kang Dynasty, hein, il y aurait deux possibilités. Soit, en gros, l'un des leurs se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier à aller chercher pour qu'il y ait une sorte de collision entre deux univers ou deux terres ou je ne sais plus trop quoi. D'accord. Qui permettrait de tout exploser et de tout faire affronter. Et en fait, il y a deux Secret Wars dans les comics, de ce que j'ai compris en lisant les news comics, etc., qu'on a sur écran large. C'est qu'il y a un comic, donc il y a celui de 2015-2014 qui a l'air un peu trop compliqué à mettre en place. Donc c'est celui où avec les collisions de terres différentes et qui serait un peu compliqué à résumer en 3 heures, en gros, entre guillemets. Et t'as celui de 1985 qui est en fait une sorte d'énorme battle royale où t'as tous les personnages qui vont se retrouver. Et il va y avoir des équipes un peu inattendues de personnages qui sont pas forcément... Enfin, il va y avoir des jeux entre le bien et le mal, quoi, entre guillemets. Et à la fin, il y a Docteur Doom, qui affronterait Galactus. Voilà.
D'accord.
Donc, ouais.
Comment ils introduisent tout ça?
Je ne sais pas. Mais après,
She-Hulk saison 2
d'ici 2027, comment ils font ça?
Je ne sais pas comment ils vont faire, mais en théorie, entre 2024 et 2027, bon, en théorie, alors ça, c'est pas de la théorie, c'est la réalité. Il y a 3 ans. Et donc, en 3 ans, ils ont quand même annoncé théoriquement plein de films. Comme tu disais, hein, Kevin Feige en juillet 2022, là, San Diego, il a cassé son slip ou je sais pas quoi là. On craque son slip plutôt. Mais non, il a en fait, il a annoncé la phase 5, mais ça a surpris tout le monde. Il a commencé à tout dézinguer et ensuite il a dit en fait, il y a la phase 6 aussi, let's go. Donc il y a les 4 fantastiques qu'il a annoncé dans cette phase 6 et ensuite il a dit je sais pas trop pour l'instant, je peux pas dire ce qu'il y a dans la phase 6, par contre, je peux vous dire à la fin.
Ah oui.
D'accord. Donc il y aura Avengers 5 et Avengers 6. Ok, cool. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe entre ? Eh ben, on ne sait pas trop. Est-ce que théoriquement, il y a quoi ? Il y a des Shang-Chi 2 hein, qui ont été annoncés. Il y a Spider-Man 4 qui a plus ou moins été annoncé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a quelques-uns quoi, qui vont être là. Peut-être Eternal 2 aussi, les Eternals 2. Donc, ouais, on n'a pas vraiment de nouvelles, mais a priori, il se passe quand même pas mal de choses avec ces personnages qui ont failli être des nouveaux Avengers. Hein. Dans le film. Hein. Donc.
Doctor Strange 3 aussi peut-être, parce qu'il y avait quand même la scène post-générique qui avait l'air de teaser du lourd.
De ça, avec Charlize Theron à la fin. Là,
puis il faut quand même trouver peut-être un film un peu transitoire pour déjà commencer à rassembler les personnages avant Avengers 5. Parce que pour ceux qui ne se sont jamais croisés avant, tu fais comment en fait.
C'est sûr que Echo et Captain Marvel.
Peut-être le film X-Men également.
Ah ben bien sûr.
Et qui va probablement arriver un de ces quatre, donc d'ici 2025-2026 j'imagine. Enfin du coup il y a plein de films qui vont arriver entre... Avengers Secret Wars, donc on va dire Avengers 6, qui pourrait être une forme de reboot, parce que si tous les personnages sont dans un battle royale et que tout le monde meurt, et quand à la fin il y a quelqu'un qui utilise le multivers pour reboot l'ensemble, tu reviens dans un univers tout nouveau qui vient chercher des nouveaux personnages ou justement des anciens qu'on a toujours connus dans l'univers du MCU, en tout cas, donc Iron Man, Captain America, Thor, Hawkeye, Black Widow, qui reviendrait, Hulk, qui reviendrait avec un nouveau casting et qui permettrait de relancer l'univers avec des personnages que tout le monde aime, en tout cas que tout le monde a appris à aimer au fur et à mesure des années. Et il y aura peut-être Young Avengers aussi, du coup, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, oui, j'ai l'impression qu'ils savent où ils vont. D'une certaine manière, Secret Wars peut être une porte de sortie absolue, véritablement absolue, on détruit tout pour tout recommencer. Donc, ce sera plus simple de remettre des bases et de ramener du public. Et en même temps, mais à quoi bon tout construire pour tout déconstruire ? C'est-à-dire que là, ils vont ramener des 4 Fantastiques, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir quand tout va être rebooté ? Ils vont ramener les X-Men, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils vont tout rebooter ? Ouais. Ils vont faire des Young Avengers pour qui disparaissent aussi au bout de 3 films. Donc, je sais pas.
Et ce qui reflète peut-être le problème plus global qu'a eu cette saga, qui d'un côté a dû repartir des acquis posés depuis Endgame, hein, qui a quand même laissé des portes ouvertes, plutôt que de peut-être repartir à zéro avec des personnages déjà établis, et en même temps de devoir en introduire des nouveaux dans ce multivers-là qui, pour l'instant, ne semble pas aller quelque part.
Bon, stop, on a passé 2 heures à parler de Marvel, c'était cool, un peu, mais cette fois je pense que c'est bon, on a fait le tour de tout ce qui déconne, de tout ce qu'on pourra aborder dans tout plein d'articles, même si je me disais quand même qu'il faudrait vraiment en faire un podcast, si un jour on se décide d'en lancer un, évidemment. Et si un jour on fait ce podcast, faudra peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent de mettre 5 étoiles sur les applis, de laisser des chouettes commentaires, de partager, comme ça nous on pourra leur dire merci de nous soutenir parce que c'est vraiment le plus important. Et oui.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.